Et c'est l'heure du journal, présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le président américain Donald Trump doit se rendre à l'Agence de protection de l'environnement pour signer un décret qui va détricoter les efforts de Barack Obama en la matière. Il s'agit de relancer en particulier l'industrie très polluante du charbon qui fournit déjà un tiers de l'énergie américaine. Nous serons en ligne avec Frédéric Carbone. Paris accueille l'une des deux lauréates du prix Sakharov 2016, Lamia, 19 ans, une femme de la communauté yézidi, prisonnière pendant des mois de l'organisation État islamique qu'elle est parvenue à fuir. Nadine Epstein l'a rencontrée. Nous irons aussi à Bruxelles comprendre pourquoi l'Union européenne ne s'indigne pas plus des dernières mesures prises par la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a commencé de façon systématique à incarcérer tous les demandeurs d'asile. L'Europe est contre, mais ne hausse pas la voix, nous dira Pierre Benazé. Et puis la condamnation de Carlos à la réclusion criminelle à perpétuité. Dernière audience de son procès suivie à Paris par Florence Sturm. C'est une communauté qui a été délibérément ciblée et détruite par Daesh. L'essentiel de la communauté yézidi vivait en Irak, où elle est d'ailleurs persécutée depuis des millénaires. Sur 550 000 personnes habitant dans le Kurdistan irakien, principalement, on estime que 400 000 ont dû fuir en raison des combats menés récemment par l'État islamique. Le principal fait d'armes remonte à la prise de Sinjar le 3 août 2014. Jusqu'en novembre 2015, cette ville yézidi a été très disputée. Les Kurdes ont mis un long moment à parvenir à chasser véritablement Daesh. Pendant toute cette période, les civils sont morts, d'autres ont fui, beaucoup ont été faits prisonniers, les femmes notamment ont subi les pires violences. L'Union européenne a récompensé l'an passé deux femmes yézidis, des prisonnières parvenues à échapper aux griffes des djihadistes. L'une d'entre elles était reçue ce matin par le Conseil de Paris. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Vous avez rencontré Lamia Hadjibachar, l'une des deux lauréates du prix Sakharov 2016. Elle vous a raconté son calvaire et surtout celui des femmes yézidis toujours réduites en esclavage par l'État islamique.
Elle avait à peine 15 ans, Lamia Hadjibachar, quand elle a été capturée par l'État islamique, qui l'a vendue 5 fois puis utilisée comme esclave sexuelle. Après 4 vaines tentatives d'évasion, la 5e fois, elle a réussi à s'échapper avec deux autres jeunes filles en payant très cher des passeurs. Mais sur la route, ses deux camarades décèdent, tués par une mine, elle est blessée. Pour Daesh, les yézidis sont des impies et donc les hommes sont tués et les femmes et les mineurs deviennent des marchandises.
C'est arrivé le 3 août 2014. Nous habitions un petit village yézidi à la périphérie de la ville de Shingal qui s'appelle Kocho. Pendant 15 jours, on a été assiégés par Daesh. Ils voulaient absolument que nous nous convertissions à l'islam et nous, on n'a pas voulu. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé leur massacre. Ils ont pris les hommes, ils ont massacré les hommes, ils ont séparé les femmes des enfants, ils ont pris tout le monde. Moi et ma famille, nous avons été amenés. Après, nous avons été séparés, ils m'ont emmené en Syrie. Dizaines de filles comme moi, plus jeunes encore que moi, qui ont été violées, torturées par Daesh. On était des bestiaux du bétail, au marché du bétail. Il y avait des filles qui étaient chères, plus chères, moins chères que d'autres. Une fille de 9 ou 10 ans, elle était achetée en une journée, deux ou trois fois. Achetée, revendue, achetée, vendue. Je me bats pour que les minorités soient protégées, pour que les filles comme moi, qui ont subi des atrocités, ne subissent plus. On estime le nombre des gens qui sont encore aux mains de Daesh à 3 000, 3 500. Depuis déjà 2 ans, ces gens-là subissent des pires atrocités et quelques-unes, 500 à peu près, des gens qui ont été libérés, mais il y en a encore d'autres qui restent. Et je me bats aussi pour que ces gens-là soient libérés le plus tôt possible. Je suis un témoin vivant de ces atrocités pour que la communauté internationale arrive à nous entendre et fasse quelque chose face à cela.
Aujourd'hui, Lamia, 19 ans, vit en Allemagne, comme 1100 autres personnes évacuées grâce à un pont aérien. Elle milite contre les violences faites aux yézidis et pour que l'État islamique soit traduit devant la Cour pénale internationale. Au Conseil de Paris, ce matin, elle a demandé à la France de faire comme l'Allemagne, de mettre en place des programmes d'aide aux rescapés de Daesh. La situation des enfants est particulièrement difficile. Entre les mains de l'EI, beaucoup ont subi des lavages de cerveau et ont maintenant un besoin urgent d'accueil, de soutien éducatif et de soins de santé.
Merci. Merci Nadine Epstein. Toujours en Irak, à Mossoul, les combats se poursuivent pour tenter de déloger, là encore, Daesh de la partie ouest de la ville. 400 000 personnes sont prises au piège et l'ONG Amnesty International dénonce la façon dont le gouvernement irakien a conseillé à ses civils de rester cloîtrés chez eux pendant les combats. Pour Amnesty International, des centaines d'hommes, femmes et enfants ont été tués par des frappes aériennes menées par la coalition internationale. Ces morts auraient dû être évitées si l'EI n'avait pas fait systématiquement de ses civils des boucliers humains et si le commandement occidental avait pris les renseignements nécessaires avant de frapper les habitations. En bref, encore la première visite officielle du président iranien en Russie. Hassan Rouhani vient discuter notamment du dossier syrien avec Vladimir Poutine. Tous deux sont des alliés fidèles de Bachar al-Assad. D'autres dossiers sont au menu, notamment la construction de 9 réacteurs nucléaires russes en Iran. Arrêtons-nous maintenant sur le sort des réfugiés, justement syriens pour certains, afghans pour d'autres, quelques 400 hommes, femmes et enfants qui se trouvent encore en Hongrie. Depuis aujourd'hui, les voilà obligés de rejoindre les 324 conteneurs installés dans des camps fermés tout proche de la frontière serbe. Cette incarcération systématique des demandeurs d'asile a été votée le 7 mars dernier à la demande de Viktor Orban. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes bien avec nous depuis Bruxelles. Alors cette volonté du Premier ministre hongrois a été critiquée en Europe déjà, mais presque timidement. Et aujourd'hui même, le commissaire européen aux migrations se trouve à Budapest. Il ne peut pratiquement rien faire.
En tout cas, on peut dire que le commissaire semble vraiment en retrait dans ses déclarations par rapport à la levée de bouclier qui avait provoqué l'annonce de cette décision. Dimitris Avramopoulos est en tout cas très sotto voce aujourd'hui à Budapest puisqu'il se contente de dire que les principes acceptés ensemble à l'unanimité par tous les États membres de l'UE doivent être respectés et appliqués par tout le monde. En revanche, le commissaire européen chargé de la politique migratoire n'évoque même pas expressément la question des camps. Il faut dire qu'il marche probablement sur des œufs parce que à l'issue de sa rencontre avec les 4 pays du groupe de Visegrad, dont font aussi partie les Polonais, les Tchèques et les Slovaques, ceux-ci ont été jusqu'à dénoncer le diktat et le chantage de l'Union européenne qui les menace de les priver de certains fonds européens s'ils ne respectent pas l'accord de répartition des réfugiés à travers l'UE. Alors on s'en souvient effectivement de cette levée de bouclier. Il y avait même eu des membres du Parti populaire européen qui réclamaient que soit exclu de ses rangs le Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban, parlant d'une décision inhumaine. Mais il est clair que la Hongrie sait qu'elle engageait un nouveau bras de fer avec la Commission européenne, puisque Orban a reconnu par avance que cette loi irait ouvertement contre l'UE. Il faut souligner qu'une loi similaire, votée en 2013, avait finalement été retirée suite aux pressions. Mais depuis près de 7 ans que Viktor Orban est Premier ministre, il a multiplié les confrontations avec la Commission. Et malgré l'invalidation du référendum d'octobre pour manque de participation, il persiste à refuser cette répartition des réfugiés. Et la difficulté de la Commission éprouve à faire revenir la Hongrie sur ses décisions et partager, par exemple, avec la Pologne, des décisions très controversées sur lesquelles la Commission apparemment n'a aucune prise non plus.
Merci beaucoup Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Et puis les Géorgiens n'ont plus besoin de visa pour entrer dans l'Union européenne. Ceux qui possèdent un passeport biométrique peuvent rester 90 jours maximum dans l'un des 27 pays de l'UE. On imagine que le Kremlin n'est pas indifférent à cette mesure. Moscou garde un œil très attentif sur la petite république du Caucase en raison de la province séparatiste d'Ossétie du Sud. Partons maintenant pour Washington où le président américain Donald Trump s'apprête à signer un décret sur l'indépendance énergétique. Il veut ainsi réactiver aux États-Unis l'industrie du charbon qui fournit déjà un tiers de l'énergie sur place. C'est aussi évidemment une façon de prendre le contre-pied d'un Barack Obama qui, au fil de ses mandats, était devenu un défenseur de la lutte contre le réchauffement climatique. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Tara.
Vous êtes donc à Washington. On se souvient que pour la première fois, les États-Unis se sont engagés clairement pour l'accord de Paris sur le climat pendant la COP21. Et en signant son décret aujourd'hui, Donald Trump brise cet engagement.
Absolument, même si le retrait formel de l'accord de Paris ne figure pas dans ce décret, il y a en fait des divisions au sein de l'administration de Trump entre des radicaux qui veulent aller jusqu'à ce degré de confrontation et d'autres, comme le secrétaire d'État Tillerson, qui ne le souhaitent pas. Mais oui, de fait, les mesures envisagées reviennent à renoncer à l'objectif principal qui est de réduire de 30% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Un calcul a été fait sur la base de ce décret, même la moitié de l'objectif ne serait pas atteint. Paris, selon le nouveau directeur de l'Agence américaine de l'environnement, est un mauvais accord défavorable à l'emploi aux États-Unis et dont seuls la Chine et l'Inde sont les bénéficiaires. Pour l'emploi américain, donc, deux dispositions essentielles. On supprime l'équivalent d'une taxe carbone via l'obligation de prendre le réchauffement climatique en considération dans toute décision gouvernementale et on renonce à tous les freins pour les centrales au charbon. Si vous ajoutez la décision de relancer le chantier de l'oléoduc Keystone, vous avez effectivement un virage à 180 degrés.
Alors comme sur tous les dossiers, Frédéric, il y a les annonces tonitruantes du président Trump et ensuite le principe de réalité.
Bien sûr, parce que Donald Trump commence à le savoir, il ne suffit pas de prendre son stylo pour tout effacer, donc les associations environnementales vont lancer des procédures en justice en demandant notamment pourquoi des objectifs jusque-là souhaitables et atteignables selon l'Agence de l'environnement deviennent tout d'un coup inutiles et impossibles. Il y aura les mêmes controverses juridiques que du temps de Barack Obama, qui, lui, n'avait pas pu imposer toutes ces mesures écologiques. Et l'autre frein, ce sont les États qui ont beaucoup de pouvoir et qui ne font pas renoncer à l'économie verte. On pense bien sûr à la Californie, laboratoire dans ce domaine, mais aussi à des États du Midwest en pointe dans l'énergie éolienne. Ce qui va changer en revanche, c'est que dans des endroits comme le Kentucky, la Virginie occidentale, les terres sinistrées de l'industrie du charbon, là où Donald Trump a aussi eu le plus de voix, il n'y aura plus aucune contrainte environnementale, mais cela ne créera pas forcément d'emplois dans une industrie de toute façon en perte de vitesse.
Merci beaucoup Frédéric Carbone en direct de Washington. En Guyane, c'est tout simplement la plus grosse manifestation jamais organisée, entre 8000 et 10000 personnes, dit la préfecture de ce petit département d'outre-mer, sur les 250 000 habitants. C'est un peu comme si 2,5 millions de Français étaient descendus dans la rue. Deuxième jour donc de colère, sur place, avec une grande marche organisée à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Notre envoyé spécial, Gaël Joly.
Noubo Kessa, ça suffit, en a marre, c'est le cri de colère de ces milliers de Guyanais. Et tout ça dans une ambiance plutôt festive, très familiale. En tout cas, ils sont déterminés dans le cortège Diana, 33 ans.
Je vous entends chanter.
Ah oui, mais je chante. On a marre. On a marre de tout, c'est bon. Faut arrêter la connerie, faut que l'État prenne la responsabilité maintenant.
Vous êtes habillé tout en noir, comme beaucoup de monde.
Comme tout le monde.
Pourquoi ?
Pour soutenir tous les collectifs. Et c'est pour nous, pour l'avenir de nos enfants.
En Guyane, un jeune sur deux est au chômage. 44% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. L'insécurité est galopante. 42 homicides l'an passé. C'est le département le plus meurtrier, loin devant Marseille. Sylvie est venue de Rémire-Montjoly. C'est à 45 minutes de Cayenne. Elle est agent d'accueil. Elle n'en peut plus de toute cette violence.
Trop de meurtres, trop de vols, trop de braquages. Je porte même plus de bijoux en bijoux sur moi. Je peux plus porter mes bijoux et j'en ai plein, mais je peux plus les porter. On a vraiment peur maintenant de marcher dans les rues. Rien ne va dans ce pays.
La Guyane debout, c'est l'autre slogan de cette manifestation. Sébastien est conseiller principal d'éducation dans un collège d'Irakoubo, à une centaine de kilomètres d'ici. Il porte la bannière du syndicat SNUF FSU et il est venu réclamer des moyens pour ses élèves.
On parle de sécurité dans certains mouvements. Nous, on pense que c'est par l'éducation qu'on répond aux problèmes de sécurité. Et déjà, si chaque élève avait une chance de réussir et chaque élève était pris en compte par la société dans laquelle on est... Il y aura peut-être un peu moins de violence.
Les collectifs organisateurs de la marche sont venus remettre leur cahier de doléances et des propositions. Patrice Cataillé du syndicat UTG.
Le cahier de revendication, il est établi, mais il est clair et entendu qu'il n'est pas question de recevoir la ministre de l'Outre-mer. On attend le Premier ministre, voire le président de la République. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, nos enfants sont en danger, notre population et notre avenir est en danger.
Erika Barège, la ministre des Outre-mer, personne ne veut la voir ici. Elle est jugée arrogante et irrespectueuse. Et les clés de ce conflit sont désormais dans les couloirs des ministères parisiens.
Gaëlle Joly à Cayenne et à Paris justement, François Bayrou, qui a rallié Emmanuel Macron, estime que le gouvernement doit prendre de façon indispensable ses responsabilités dans ce dossier. La campagne présidentielle, en bref, avec l'affaire Fillon, son épouse Pénélope est dans le bureau des juges qui enquête sur des soupçons d'emploi fictifs. Elle pourrait être mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté. Elle était jusqu'à présent Madame Handicap au parti Les Républicains, secrétaire d'État sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, Marie-Anne Monchamp rallie Emmanuel Macron. Elle s'en est expliquée tout à l'heure sur France Info.
J'ai consacré toute ma vie à un combat extrêmement impliquant pour les personnes en situation de handicap, pour la dépendance, pour notre modèle de protection sociale. Et notre pays a besoin de renouveler le cadre. On a besoin de renverser la table, pas simplement pour faire des effets de manche. Et quand on regarde les projets, il y a des choses qui s'imposent. Vous voyez la question du financement de la protection sociale. Le fait de dire que, au fond, les dépenses de santé dans notre pays, elles ne vont pas se réduire, que c'est un leurre, une posture idéologique que de l'affirmer. mais de se donner les moyens d'y faire face, ça me semble quelque chose d'extrêmement important et auquel les Français seront sensibles. Et ce qui motive mon choix, c'est qu'aujourd'hui, le brouillage est tel qu'il est absolument impossible d'arriver à traiter des questions de fond. La République des partis politiques, elle désespère nos compatriotes. Ce dont ils ont envie, c'est une République des projets. Moi, quelque part, je me dis qu'au fond, ce rassemblement, il est en marche. Est-ce qu'on rassemble assez pour la France ? En tout cas, moi, mon choix, c'est d'aller vers ce rassemblement-là.
Marianne Monchamp, interrogée par Céline Baillet-Darcourt. La justice vient de valider la reprise partielle de l'enseigne MIM. 6 offres étaient possibles. Le tribunal de commerce de Bobigny s'arrête sur un repreneur qui fait très peur aux salariés. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
Il s'agit d'une entreprise suisse en association avec le groupe Etam. Or, le schéma que ces deux entreprises ont proposé prévoit la suppression de plus de la moitié des salariés de MIM.
Oui, c'est finalement un rachat partiel de l'enseigne qui a eu la préférence du tribunal de commerce de Bobigny. Rachat par un consortium constitué, vous l'avez dit, d'une marque de vêtements suisse, Tali Vigil, et de Etam, qui pourrait récupérer quelques boutiques. 39 magasins seraient sauvés seulement sur 250 et 800 emplois supprimés, donc sur 1500 au total. Une autre offre qui avait la faveur du comité d'entreprise de MIM prévoyait de sauvegarder 90% des emplois et des points de vente, mais le tribunal a jugé que ce candidat, le groupe familial Clémenti, n'avait pas donné de garanties financières suffisantes. Il faut dire que MIM cumule à ce jour une dette de 60 millions d'euros. Une troisième offre, enfin, avait été catégoriquement rejetée par les salariés, celle de l'un des fournisseurs de l'entreprise, Nicolas Cohen, accusé d'avoir emmené l'entreprise justement dans le gouffre en pratiquant des marges trop élevées. MIM avait été racheté en 2014 par le géant du textile chinois Main Asia, rachat qui s'était soldé par une baisse globale de la qualité des vêtements qui, dans le même temps, avait vu leur prix augmenter, une stratégie qui fait penser à celle de La Halle, enseigne du groupe Vivarte, qui connaît actuellement le même sort. Le siège de MIM devrait donc disparaître. Quant aux conseillères de vente, elles devront retrouver un travail dans un secteur qui connaît une très très grave crise depuis presque 10 ans déjà, le secteur de l'habillement traditionnel. La faute à une concurrence internationale très vive, accentuée il y a peu par l'arrivée de l'Irlandais Primark sur le marché français, mais aussi la faute à une autre concurrence inéluctable, celle-là, les plateformes de vente sur Internet. Ce secteur, l'habillement, les candidats à la présidentielle ne s'y sont pas du tout intéressés et c'est ce qu'ont déploré à l'unanimité les salariés de MIM.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Le procès Carlos et le verdict de la Cour d'assises de Paris au terme de plus de 2 semaines d'audience. La Cour l'a reconnu coupable de l'attentat du drugstore Publicis, attentat qui avait fait 2 morts, 34 blessés le 15 septembre 1974 à Paris. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour la 3e fois.
Oui, c'est un verdict sans surprise qu'ont rendu les 5 magistrats professionnels après 4 heures de délibéré. Verdict que l'accusé a encaissé sans broncher. Tout au long des débats, Carlos a dénoncé un procès absurde à tout point de vue. Dans la salle, en revanche, l'émotion a gagné les parties civiles. Maria del Pilar Segui Julián était venue d'Espagne. Elle n'avait que 10 ans le jour de l'attentat et elle se trouvait au drugstore avec sa mère, son frère et sa sœur.
J'ai une vision différente parce que je suis quand même une femme maintenant et non plus une petite fille. Je suis incapable de sentir ce que ma mère elle avait ressenti à l'époque. Je comprends parfaitement comment elle pourrait se sentir en ce moment. C'est pour ça que j'ai une forte émotion. Et je sais que je suis venue pour elle. Et donc, quand j'ai entendu le verdict, que j'ai pleuré, on m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis, non, c'est pas moi, c'est maman. C'est maman qui est en moi en ce moment et c'est à elle que je dois... Quand je rentrerai, je la prendrai bien dans mes bras et je lui dirai « C'est fini, maman !»
Carlos, lui, a toujours nié être l'auteur de l'attentat. Durant ces 2 semaines de procès, ses avocats se sont évertués à dénoncer la fragilité des témoignages, l'absence de preuves, sans réussir à convaincre l'accusation et la cour, déplore aujourd'hui maître Francis Villemain.
La vérité médiatique a imprégné la vérité judiciaire. La vérité médiatique, répétée depuis 43 ans, a imprégné jusqu'à l'esprit des juges ces magistrats qui n'ont pas osé acquitter Carlos. L'acquittement qui était la seule décision digne après ces 15 jours de procès. L'acquitter au bénéfice du doute.
Et ce procès ne sera pas le dernier de Carlos en France. La défense de l'accusé a déjà annoncé son intention de faire appel de cette nouvelle condamnation.
Merci beaucoup Florence Turm. En Côte d'Ivoire, le procureur du tribunal d'Abidjan a requis mardi aujourd'hui une peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'épouse donc de Laurent Gbagbo. Et puis on a appris aujourd'hui aussi le décès de Mario Betati, le professeur de droit international qui en 1987 avait, avec Bernard Kouchner, publié en collaboration donc avec le French Doctor, Le devoir d'ingérence pour faire donc respecter le droit humanitaire international. Il avait 79 ans, agrégé de droit public. Il était né à Nice. Voilà, je vais vous rendre l'antenne bientôt avant de vous annoncer quand même, le temps de vous annoncer plutôt quand même, Hervé Gardette, que demain il va faire très beau sur tout le pays. En France, c'est donc extrêmement court comme météo, des températures très douces et tout à fait printanières pour la saison. Merci à Mathilde Julien qui a préparé avec moi cette édition.